En préliminaire, simplement, une petite attention à la deuxième lecture de la deuxième épître aux Corinthiens, où saint Paul parle de l'aumône faite pour les besoins de ceux qui sont les plus pauvres, qui sont dans les difficultés. Et il précise quelque chose d'important, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire un acte de charité, un beau geste, mais il s'agit d'un simple acte de justice. Donc il remet cela dans sa juste mesure, un simple acte de justice envers ceux qui sont dans le besoin. Quand on est dans l'abondance, comme il le dit, il ne s'agit pas de se mettre dans la gêne, mais simplement d'aider ceux qui sont dans le besoin. Donc il nous faut nous rappeler cela quand nous partageons de nos biens, et sans doute aussi réfléchir et discerner sur ce qu'il nous faut faire pour aider ceux qui sont dans la misère. Voilà, une fois cette petite introduction faite, ce petit rappel fait, revenons à l'Évangile. Hein, cet Évangile un peu que nous connaissons bien sans doute, la caractéristique de cet Évangile, c'est que ces deux miracles imbriqués l'un dans l'autre, ces deux miracles parlent de la même réalité, c'est le mystère de la vie qui part, la vie qui disparaît. Hein, cette jeune enfant qui, à l'aube de l'âge adulte, puisque dans l'Antiquité, on considérait que vers 12 ans, on passait à l'âge adulte. Hein, il y a encore, dans la religion juive, la bar mitzvah qui se fait à l'âge de 12 ans pour montrer qu'on entre dans l'étape adulte. Et donc, il y a cette jeune fille qui n'est même pas rentrée dans l'âge adulte et qui est en train de mourir. Et puis, cette femme plus âgée, donc qui, elle, depuis 12 ans, a des pertes de sang récurrentes et qui est aussi en train de perdre la vie, puisque dans la conception biblique, le sang est le principe de vie et le principe de l'âme, le siège de l'âme. C'est pour ça qu'on ne consomme jamais de sang dans la première alliance, interdit de boire du sang, parce que ça serait prendre l'âme de l'autre. Donc c'est quelque chose de... Il n'y a que Dieu qui est maître de la vie. Hein, et donc... Donc dans ces deux cas, donc c'est le symbole de la vie. Et on a entendu en parallèle, comme à chaque fois d'ailleurs, à chaque messe, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première lecture de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, la première lecture prépare toujours l'Évangile et parle à l'Évangile et nous aide à comprendre l'Évangile. Dans la première lecture du Livre de la Sagesse, nous avons cette parole forte qui dit « Dieu n'a pas fait la mort ». C'est la jalousie du diable, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Il nous dit clairement que Dieu, à l'origine, n'a pas fait la mort. C'est la jalousie du diable, c'est la séduction du diable, et l'être humain, qui est un être libre, eh bien, a pu dire oui, et c'est ce qui s'est passé, ce qui fait que la mort est entrée par des choix, qui conséquence d'une liberté mal utilisée, et qui désormais, la mort règne dans notre vie, dans la vie. Mais Dieu n'a pas fait la mort, il n'a pas voulu la mort. Et donc après, à nous, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui va venir au secours des êtres humains qu'il a créés pour la vie, mais qui sont en train de mourir. Il vient vers eux pour leur redonner la vie. Et Jésus se présente comme le médecin de la vie, celui qui donne la vie. Hein, c'est intéressant cette précision que nous avons dans l'évangile de ce jour, de cette femme donc atteinte de saignements réguliers et qui va voir les médecins, et nous précise l'évangile, les médecins n'ont rien fait, voire même ils ont empiré la situation. Hein, il me semble, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que chez saint Luc, il n'y a pas cette précision, parce que saint Luc, selon la tradition, est médecin. Donc lui, il se dit, il n'a pas précisé ce genre de truc. Par contre, les autres l'ont fait, parce que c'est présent dans les trois évangiles synoptiques, ce miracle. Toujours est-il qu'on voit bien, l'homme ne peut pas donner la vie. Il peut essayer de guérir, mais il n'y arrive pas. Il ne peut pas donner la vie. Il n'y a que Jésus qui peut donner la vie. Et c'est lui le vrai médecin, le médecin qui donne la vie. Hein, et donc, c'est ce qu'on va voir dans ces deux miracles. Jésus se présente comme celui qui donne la vie et qui touche tout le monde. Hein, cette femme plus âgée, cet enfant qui s'apprête à rentrer dans l'âge adulte, des milieux sociaux aussi différents, il touche tout le monde, il veut sauver tout le monde, et c'est pour cela qu'il est venu parmi nous. C'est la raison principale. Alors, ensuite, quand on regarde le récit, on voit cette foule qui va vers Jésus, qui touche Jésus, il est même écrit que, qui écrase Jésus. Et pourtant, il n'y a que cette femme qui va toucher Jésus et qui va être guérie. Et Jésus va donc avoir cette parole surprenante, « Qui m'a touché ?» Et les apôtres, un peu étonnés, vont dire mais tout le monde t'écrase, tout le monde te touche, comment tu peux dire cela ?» Parce qu'en fait, et les pères de l'Église vont développer ça, saint Éphrem par exemple, ils vont dire « De fait, tout le monde peut toucher Jésus. Et nous pouvons, nous aussi, nous qui sommes ici, toucher Jésus. Nous le touchons par les sacrements, par la vie de l'Église. Nous le touchons, mais tout le monde touche Jésus, mais une seule va toucher Jésus avec la foi. » Une seule va toucher Jésus vraiment avec cette relation, avec cette recherche d'une relation particulière, que Jésus lui donne la vie, vraiment. Que la vie de Jésus vienne en elle. Elle en avait besoin, elle en avait conscience, et il n'y a qu'elle. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui étaient malades, qui avaient besoin de guérison. Et ça sera la seule guérie, parce qu'elle va le faire avec la foi, et l'Évangile nous précise qu'en fait, elle avait simplement entendu parler de Jésus. Donc, ce n'est pas parce qu'elle avait eu une super expérience avant. Simplement entendu de Jésus, mais là, sa démarche fait que Jésus va intervenir presque malgré lui, hein, puisque cette force sort de lui, ça fait un petit peu magique. Mais, de fait, ce n'est pas magique du tout, parce que si ça avait été magique, tous ceux qui touchaient Jésus auraient eu des effets. Or, il n'y a que cette femme, parce qu'elle avait la foi. Et ça nous interroge vraiment sur notre foi. Et Jésus, de fait, nous interroge vraiment sur notre foi dans la vie que Dieu nous donne. Quand il dit, par exemple, à ce père qui est en train de perdre sa fille, il faut bien le voir aussi. Enfin, je ne sais pas si je suis mieux placé pour m'en apercevoir, mais ceux qui parmi nous ont des enfants, imaginez de perdre son enfant de 12 ans par une maladie. Et on entend Jésus qui dit « Ne crains pas, crois seulement ». D'ailleurs, elle est déjà morte à ce moment-là. Ne crains pas, crois seulement. Ben merci, hein, c'est sympa. En entendant, nous, on pleure. Hein, et Jésus invite à cette démarche de foi qui va beaucoup plus loin que simplement cette foi de confort qui serait que je suis croyant, à la différence de quelqu'un d'autre qui n'est pas croyant, mais globalement, finalement, ça ne change pas beaucoup mon regard sur la vie, sur le monde et sur la mort. Ou bien cette autre expression que Jésus dit, et il se fait moquer de lui, ce n'est pas le seul moment où il se fait moquer de lui, parce qu'il a ces expressions un peu provocantes, il dit « Mais non, elle n'est pas morte, elle dort. » Il va dire la même chose pour Lazare. Il dort. Alors, je ne sais pas, nous on dit mais Jésus, c'est ridicule ce que tu dis. C'est ridicule, tu nous dis ça. Et pourtant, s'il nous dit ça, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'il veut nous inviter à avoir une conversion du regard, avoir un regard de foi sur la vie et sur la mort, à ne pas regarder l'expérience de la mort simplement dans son côté dramatique tel que il est dramatique, l'expérience de la mort, comme il est dit, comme je l'ai rappelé aussi, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, la mort c'est négatif, c'est mauvais, c'est destructeur. Et pourtant, parce que Jésus est le principe de vie auquel nous adhérons, nous sommes invités à regarder la mort différemment, à regarder avec tout ce qui dépend de la mort, la maladie, etc., cette femme qui souffre, regarder les choses différemment et de voir en Jésus le principe de vie. Et donc Jésus nous invite à regarder la mort non pas comme une mort, telle que tout le monde le comprend, c'est-à-dire c'est fini, on pleure, mais à regarder la mort comme un sommeil. Hein, c'est présent dans la Bible souvent, la résurrection est considérée comme quelqu'un qui se lève du sommeil. Quand on ressuscite, enfin, les expressions bibliques qui sont toujours très imagées montrent que c'est celui qui est couché, qui dort et qui se lève pour être debout. Hein, l'attitude debout, c'est l'attitude du vivant. Du couché, c'est l'attitude du mort. Voilà. Et donc le Seigneur nous invite à regarder la mort différemment et ceci nous interpelle, nous interroge. Avec l'épidémie que maintenant on est un tout petit peu soulagé, j'espère que ça va durer, on ne sait pas trop, mais cette épidémie nous a beaucoup interpellés sur notre rapport à la mort. Il ne s'agit pas de relativiser les gestes sanitaires et tout ça, parce que c'est question de charité vis-à-vis de nos frères, il ne s'agit pas de mettre en danger les uns les autres. Mais par contre, nous, on peut regarder déjà notre propre mort la mort de ceux qui sont autour de nous, avoir un regard différent, un regard d'espérance sur la mort. Quand on est prêtre, on a la chance, régulièrement, pas assez souvent, mais régulièrement, de faire des sépultures de chrétiens qui sont des beaux moments, paradoxalement, des beaux moments. Parce que c'est des gens qui regardent, qui ont regardé eux-mêmes leur propre mort et leurs proches, parfois, les ont accompagnés dans ce chemin de foi, regarder la mort avec un regard de « non, il n'est pas mort, elle dort ». Voilà. Et donc, il y a cette espérance chrétienne très forte, cette foi en Jésus, principe de vie. Et donc, voilà. Donc, nous sommes invités à avancer dans cette relation au Seigneur, dans ce contact avec Jésus, par un regard de foi. Et finalement, c'est la foi dont il manque. Hein, nos frères protestants évangéliques insistent beaucoup sur le fait qu'on obtient des miracles par la foi. Et ils ont raison. Hein, même si parfois, il y a peut-être un côté un peu magique dans la démarche, un peu forcing. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avoir une foi fervente et paisible. Un vrai regard sur la vie et sur la mort différent. Voilà. Et donc, cette foi implique l'audace, implique la confiance en Dieu totale. Voilà. Et donc, il nous faut toucher Jésus avec la foi. Mais il nous faut toucher Jésus. Dans les deux cas, les deux miracles, il y a le contact. Jésus invite à la relation. Même la femme qui est touchée par derrière, Jésus la cherche du regard, elle la trouve, il entretient un dialogue avec elle. Il y a une véritable relation qui s'établit et ça fait partie de la démarche chrétienne de foi. Le contact, certes, on peut venir à la messe, on peut faire des démarches religieuses ou spirituelles, mais avec, en fait, aucune vraie relation, sans établir vraiment une relation de confiance, d'audace, de foi, hein, d'une foi vivante. Et finalement, Jésus, il ne veut pas cela. Il veut créer de la relation. Il crée la relation avec cet homme, il crée la relation avec cette jeune fille, il crée la relation avec cette femme. Et donc, il faut entrer dans un contact de relation hein, qui nous mène dans la relation. Et donc, pour vivre cette relation, nous le vivons par la médiation de l'Église, par les sacrements, mais pas uniquement, mais les sacrements en premier lieu. Hein, les sacrements de l'Eucharistie, le premier de tous, le plus grand, les sacrements et tous les autres sacrements de la réconciliation, sacrement des malades, puisqu'on parle là des gens qui sont en souffrance, sacrement des malades, mais aussi tous les sacrements sont des sacrements où on touche le Seigneur. Hein, les pères de l'Église le diront. Toucher, on touche Jésus par les sacrements. Mais pas uniquement, aussi, ça se déploie dans toute la vie ecclésiale, par la vie de prière, la vie de charité aussi. Et même la vie fraternelle, hein, la communauté chrétienne est signe, c'est le corps du Christ, hein, c'est un lieu où on peut toucher Jésus. Pour ça, la communauté chrétienne doit se vivre et doit se construire. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a prévu, enfin c'est toujours d'actualité, hein, parce que maintenant il fait beau, on a prévu un barbecue à l'issue de la messe. C'est pas simplement pour faire des mondanités entre chrétiens, parce que ça, vous pouvez le faire entre vous, vous vous connaissez, un certain nombre se connaissent entre eux. Mais c'est vraiment pour construire une véritable fraternité chrétienne telle que le Seigneur nous y invite. Hein, l'amour que nous avons les uns pour les autres, on nous reconnaîtra pour les amis du Seigneur, c'est par cet amour construit au-delà des frontières culturelles, frontières de milieux sociaux, et c'est pas facile de dépasser tout cela. Quand on se connaît pas, d'aller les uns vers les autres, les codes changent un peu. Mais le christianisme dépasse tout cela. Et pour construire une vraie communauté fraternelle qui fait que quand des gens viennent vers nous, viennent vers la communauté chrétienne, ils sont touchés par Jésus. Ils sont touchés par ce qui s'y vit, ils sont touchés par Jésus et ils peuvent rencontrer vraiment Jésus. Voilà, demandons au Seigneur donc de raviver notre foi, de nous approcher de Jésus avec la foi, avec une foi fervente et vivante. Et demandons au Seigneur de vraiment toucher Jésus dans la vie ecclésiale, dans toutes ses dimensions. Amen.